L'auteur de l'Épître aux Hébreux définit la foi comme la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ainsi, par la foi, nous avons des certitudes, nous avons de l'assurance. Mais de là à dire que la vie chrétienne n'est faite que d'assurance et de certitude serait faux et bien mal connaître la vie chrétienne et la nature humaine. En fait, dans la vie chrétienne, il y a ce que l'on sait et ce que l'on ne sait pas, ce que l'on comprend et ce que l'on ne comprend pas. Et une des questions qui se pose à nous devant ce constat est celle-ci: faut-il tout comprendre? Faut-il tout comprendre de Dieu, du salut, de l'œuvre du Saint-Esprit, de la réalité de la souffrance, et j'en passe, pour faire confiance à Dieu? Faut-il tout comprendre pour faire confiance à Dieu? Comme une première réponse, alors je teste une autre télécommande donc. Comme une première réponse à cette question, on peut rappeler ici ce qui est écrit dans le livre du Deutéronome qui est à l'écran, Deutéronome 29, verset 29. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. En effet, à part le jeune converti qui n'est pas encore redescendu de son petit nuage, le chrétien, le disciple de Jésus, est très vite confronté à cette réalité des choses qu'il comprend et des choses qu'il ne comprend pas. Des choses que Dieu a révélées et des choses que Dieu tient cachées. Alors que faire face à cette réalité? Que faire face à ce que je ne comprends pas de Dieu, du salut, des épreuves que je traverse, de la souffrance, du mal? Il y a un cantique ancien très connu qui exprime cette réalité et que je vais utiliser ce matin comme support à la méditation. Le titre de ce cantique en français, vous l'avez en tête très certainement, c'est « Je ne sais pourquoi dans sa grâce ». Je ne sais pourquoi dans sa grâce. C'est un certain Daniel Webster Whittle, né dans le Massachusetts le 22 novembre 1840, qui l'a composé. Il a en tout à peu près composé 200 cantiques qui apparaissent dans les recueils de chants, surtout les recueils plus anciens, sous deux pseudonymes, Elnathan ou alors le Major Whittle. On ne connaît pas la date de composition, mais on connaît la date de la première publication dans un recueil de chants, et c'est en 1883 que ce cantique apparaît pour la première fois dans un recueil de chants de l'Église méthodiste. Alors pour mettre un petit peu les choses en perspective, parce que 1883, ça ne dit pas grand-chose en réalité, c'est 12 ans avant la création de notre Église. Vous voyez, c'est quasiment au même temps, puisque l'Église baptiste de Nîmes est née en 1895. 12 ans avant, Daniel Webster Whittle écrivait ou composait, ou en tout cas c'était édité, ce beau cantique. En anglais, à l'inverse de la version française, le titre, lui, est résolument positif en anglais. « I know whom I have believed », qui peut se traduire ou qui se traduit par « Je sais en qui j'ai cru ».« Je sais en qui j'ai cru », qui est une citation textuelle de 2 Timothée 1,12, qui va être entièrement repris dans le refrain de la version en anglais. En anglais, il y a 5 strophes, mais il n'y en a que 4 en français. Et puis, une dernière chose, on peut noter qu'en français, La traduction de certaines strophes varie quand même substantiellement par rapport à au texte en anglais, mais c'est toujours dans la même pensée. Dans la même pensée de ce que nous savons, de ce que nous comprenons d'un côté, et de ce que nous ne savons pas et de ce que nous ne comprenons pas de l'autre côté. Alors bien sûr, ce matin, nous allons rester sur le texte que nous connaissons en français, qui a été traduit par un certain Georges Guillot. Alors je ne sais pas si ça fait partie des ancêtres de Ben, Anaël, Laurent, Caroline. Voilà, vous pourrez regarder dans votre arbre généalogique Georges Guillot. Venons-en au cantique. Que dit ce cantique ? Nous allons prendre les quatre strophes dans l'ordre et ensuite nous aborderons le refrain et donc nous allons commencer par la première strophe. Je ne sais pourquoi dans sa grâce Jésus m'a tant aimé, pourquoi par son sang il efface ma dette, mon péché. Que dit cette première strophe ? Quel mystère, quelle réalité de la foi que nous ne comprenons pas met-elle en lumière ? Cette première strophe souligne le grand mystère de la grâce salvatrice de Dieu en Jésus-Christ. En effet, dès l'instant où nous comprenons que le salut est par la grâce seule, au moyen de la foi, mais par la grâce seule. Au moment où nous comprenons que nos mérites n'y sont pour rien, au moment où nous comprenons que c'est un cadeau immérité que Dieu nous fait, alors, si nous réfléchissons un peu, jaillissent en nous toutes sortes de questions sans réponse. Pourquoi Dieu a-t-il choisi de sauver l'homme pécheur qui l'a rejeté ? Pourquoi Dieu a-t-il choisi de me sauver moi ? Comment est-ce possible que Dieu ait choisi en Jésus d'effacer mon péché, d'effacer ma dette, puisque je ne le méritais pas ? Si la Bible affirme ces choses, elle ne donne cependant pas d'autre explication pour le salut que la grâce seule. Que la grâce seule est que celle de l'amour de Dieu et celle aussi de son bon vouloir. Ainsi, Jésus affirme dans Jean 3,16 que c'est parce que Dieu a tant aimé le monde. On le connaît tellement ce verset. Mais c'est parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ainsi, l'apôtre Paul affirme dans Romains 5, verset 8, que c'est alors que nous étions encore des pécheurs. Et un peu plus loin, il dira que nous étions ennemis de Dieu. C'est quand nous étions encore des pécheurs que Dieu a prouvé son amour envers nous, en faisant mourir le Christ sur la croix. Et ainsi, toujours dans l'Épître aux Romains, quelques chapitres plus loin, l'apôtre Paul affirme que Dieu fait miséricorde à qui il veut et il a compassion de qui il veut sans que cela ne dépende de nous. Alors oui, la Bible affirme que c'est par amour que Dieu nous fait grâce. Elle affirme que c'est son choix souverain et nous restons devant le mystère. Un mystère encore plus opaque quand nous considérons notre propre cœur. Notre propre cœur toujours capable du meilleur, mais aussi capable du pire. Et c'est ainsi qu'avec la première strophe du cantique, nous devons dire, nous ne pouvons que dire, en pensant à la grâce que Dieu nous a manifestée si nous sommes son enfant, je ne sais pourquoi dans sa grâce. Jésus m'a tant aimé, pourquoi par son sang il efface ma dette, mon péché ? Non, dans le domaine du salut, accordé par la grâce seule au moyen de la foi, il n'y a pas d'explication qui satisfasse entièrement notre rationalité. Et c'est par la foi que nous devons accepter de ne pas tout comprendre ici-bas, sachant que les choses cachées appartiennent à l'Éternel. Passons à la deuxième strophe. Que dit-elle ? Quel mystère, quelle réalité de la foi que nous ne comprenons pas met-elle en lumière ? Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur. Comment je compris ma misère et reçu mon Sauveur ? Que souligne cette deuxième strophe ? Elle souligne le mystère de l'illumination de notre cœur, le mystère de l'œuvre de l'Esprit Saint en nous, qui nous régénère, qui nous convainc de péché, qui nous permet de croire, qui nous fait passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Est-ce que vous croyez au miracle ? Bien sûr, il y a les miracles de la Bible, les miracles dont nous entendons parfois parler, les miracles que peut-être Dieu a opérés dans votre vie par une délivrance. Mais ce ne sont pas ces miracles que je pense. Les miracles auxquels je pense ici, c'est le miracle qui concerne chaque enfant de Dieu au commencement de sa vie spirituelle. Si vous êtes un enfant du Seigneur, êtes-vous conscient que votre vie chrétienne a commencé par un miracle extraordinaire ? C'est le miracle de la régénération de votre cœur qui a conduit au miracle de la nouvelle naissance. C'est le miracle de cette action de Dieu dans votre cœur qui a fait de vous, en Jésus et par Jésus, une nouvelle créature, une nouvelle création. Car avant d'être en Christ, nous étions spirituellement morts, morts dans nos péchés. Mais Dieu nous a fait renaître à une vie nouvelle, en Christ. Comment cela s'est-il produit ? Comment cela s'est-il passé dans notre cœur ? C'est en partie un mystère. Au départ, nous ne cherchions pas Dieu puisque nous étions spirituellement morts et que les morts, par définition, ça ne fait rien du tout. Mais Dieu, dans son amour, nous a aimés le premier. Puis, par son esprit, il a touché notre cœur en y créant une vie nouvelle. Par son esprit, il a commencé à restaurer en nous l'image de Dieu, abîmée par le péché. C'est-à-dire qu'il a commencé à recréer en nous l'image de son Fils. Il a commencé en nous une œuvre bonne qu'il achèvera quand nous verrons le Seigneur, et que nous deviendrons alors parfaitement semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Par son esprit, il a illuminé les yeux de notre cœur. Il a fait tomber les écailles de nos yeux. Par son esprit, il a mis la soif de le connaître au fond de nous. Et il nous a donné la foi. Par son esprit, il nous a convaincus de péché, de justice et de jugement. Et alors, c'est le miracle. Nous avons pu croire. Nous avons pu nous repentir de nos péchés. Et nous avons pu nous abandonner à la grâce salvatrice de Dieu en Jésus-Christ. Nous avons pu nous convertir et naître de nouveau. Chers amis, comment Dieu a-t-il fait tout cela ? Comment Dieu a-t-il agi dans notre cœur ? Comment notre pensée a-t-elle été transformée ? Comment finalement avons-nous plié le genou devant Dieu ? Alors qu'au départ, nous ne croyions pas, nous n'en avions rien à faire, très certainement. Nous étions ennemis de Dieu, dit Paul. Comment avons-nous compris notre misère, notre péché, l'amour de Dieu pour nous? Oui, tout cela est un profond mystère. Un profond mystère exprimé par la deuxième strophe de notre cantique. Oui, comme le disait Jésus à Nicodème, le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'Esprit de Dieu. Il en est ainsi de quiconque est né de l'Esprit de Dieu. Oui, ici aussi, dans le domaine de l'œuvre de l'Esprit dans les cœurs, il n'y a pas d'explication qui satisfasse entièrement notre rationalité. Et c'est par la foi que nous devons accepter de ne pas tout comprendre ici-bas, sachant que les choses cachées appartiennent à l'Éternel. Passons à la troisième strophe. Que dit-elle ? Quel mystère, quelle réalité de la foi que nous ne comprenons pas met-elle en lumière ? Je ne sais quelle est la mesure de joie et de douleur que pour moi, faible créature, réserve mon Sauveur. Que souligne cette troisième strophe ? Elle souligne le mystère de la souffrance et du mal, mais elle souligne surtout la part variable de la souffrance et de la joie de chacun. Oui, le mal et la souffrance sont un mystère auquel s'ajoute le mystère de la part différente de chacun. C'est pourquoi les questions soulevées ne sont pas seulement « pourquoi est-ce que je souffre ?» ou alors « pourquoi est-ce que le mal existe ?» ou encore « pourquoi est-ce que Dieu permet la souffrance ?» Ce sont déjà des questions bien difficiles. Mais aussi « pourquoi est-ce que je souffre moins ou plus que l'autre ?» Qu'est-ce qui explique la différence ? Pourquoi certaines personnes souffrent tant alors que d'autres, à l'évidence, beaucoup moins. À bien y réfléchir, il n'y a pas vraiment dans ce domaine d'explication, et il y a dans ce domaine de quoi être perplexe, de quoi parfois y perdre son latin, de quoi ressentir, en tout cas, certainement une forme d'injustice. Une chose est sûre, il n'y a pas de règle en la matière, et la raison ne nous aide pas beaucoup. Ceci dit, il est vrai aussi que nul ne sait de quoi demain sera fait. Ainsi, quelqu'un qui a peu souffert peut du jour au lendemain beaucoup souffrir. Et les souffrances d'un autre qui semblait sans fin peuvent s'arrêter du jour au lendemain. Bien évidemment, ça ne résout rien au mystère dont nous parlons, mais c'est aussi la réalité. À tout ce que nous venons de dire, il faut ajouter la dimension de la souveraineté de Dieu qui est bel et bien exprimée dans notre troisième strophe. Cette troisième strophe qui dit, en parlant de ce mystère de la souffrance dans notre vie, que pour moi, faible créature, cette part de joie et de douleur que je ne connais pas, pour moi, faible créature, réserve mon Sauveur. Aïe. Oui, nous croyons que Dieu est souverain sur toute chose, et donc aussi sur les difficultés de la vie qu'il permet. Alors il est vrai que parfois nous les engendrons tout seuls, comme des grands. Parfois Dieu les ordonne, et toujours, toujours, il les permet. Et elles n'échappent pas à sa souveraineté. En fait, il n'y a jamais quoi que ce soit qui se passe dans ma vie qui échappe au contrôle souverain de Dieu. Je suis conscient que cette réalité, cette vérité peut aussi susciter beaucoup d'incompréhension. Je n'ai pas vraiment le temps de développer ce matin. Mais tout cela et bien d'autres choses encore, c'est ce mystère exprimé ici dans cette troisième strophe de notre cantique. Non, nous ne savons pas quelle est la mesure de joie et de douleur que pour nous, faibles créatures, réserve notre Sauveur. Ici aussi, dans le domaine des souffrances et des joies de notre vie, il n'y a pas d'explication qui satisfasse entièrement notre rationalité. Et là aussi, c'est par la foi que nous devons accepter de ne pas tout comprendre ici-bas, sachant que les choses cachées appartiennent à l'Éternel. Passons à la quatrième et dernière strophe. Que dit-elle ? Quel mystère, quelle réalité de la foi que nous ne comprenons pas met-elle en lumière ? Je ne sais quand de la victoire, l'heure enfin sonnera, quand l'agneau, l'époux dans sa gloire, avec lui me prendra. Que souligne cette strophe ? Elle souligne le mystère de notre espérance. De ce moment où la victoire acquise à la croix sera pleinement manifestée en nous et pour nous. De ce moment où nous entrerons dans la gloire. De ce moment où Jésus, par son retour ou par notre mort, nous prendra auprès de lui. Quel mystère que ce mystère de notre espérance. Par la foi, nous savons que ces choses sont vraies, mais elles nous semblent si lointaines et parfois tellement irréelles. Il y a bien sûr tout ce qui concerne le retour du Seigneur, où en fait, quand on y réfléchit bien, à part le fait qu'il va revenir et que nous devons être prêts, nous ne savons pas grand-chose d'autre. Malgré toutes les tentatives de certains pour essayer de déterminer une date, malgré toutes les positions et les schémas eschatologiques pour essayer de comprendre comment tout cela s'articule en vrai, nous sommes devant bien des choses que nous ne comprenons pas et que nous ne savons pas. Nous savons deux choses avec certitude, c'est qu'il va revenir et que nous devons être prêts. Et c'est de loin le plus important. Et puis, il y a aussi tout ce qui concerne la gloire promise, où là aussi, nous ne savons finalement pas grand-chose. Alors, bien sûr, le Nouveau Testament parle de cette gloire à venir. Il parle du paradis, il parle du ciel, il parle des nouveaux cieux et de la nouvelle terre où la justice habitera. Il parle de la nouvelle Jérusalem, etc. Mais en fait, il ne dit pas grand-chose. Et quand il dit quelque chose, le Nouveau Testament, sur cette réalité, eh bien, il le dit en langage imagé et en langage symbolique, ce qui bien souvent ne nous aide pas vraiment. Alors oui, la gloire promise, l'heure de la victoire quand le Christ nous prendra avec lui, est une certitude par la foi, mais c'est surtout un grand mystère. Un grand mystère qui dépasse notre entendement, un mystère qui défie notre raison. Bien sûr, si nous comprenions tous ces mystères dont nous venons de parler, dans toutes ces quatre strophes, alors nous n'aurions plus besoin de marcher par la foi. Nous pourrions simplement marcher par la vue. Mais ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous marchions par la foi. En comptant sur le Seigneur, en mettant notre confiance en ce qu'il a dit, en ce qu'il a promis, même si nous ne comprenons pas tout, même si nous ne voyons pas encore tout. En fait, ce que le Seigneur nous demande devant tous ces mystères, devant toutes ces questions sans réponse, ce n'est pas d'essayer à tout prix de comprendre, mais de croire, tout simplement. De lui faire confiance, de faire confiance à sa parole. Et ici aussi, dans le domaine de la gloire promise, il n'y a pas d'explication qui satisfasse entièrement notre rationalité. Donc, c'est aussi par la foi que nous devons accepter de ne pas tout comprendre ici-bas, sachant que les choses cachées appartiennent à l'Éternel. Maintenant, après les choses que nous ne savons pas, il est temps de dire un mot des choses que nous savons, des choses dont nous avons l'assurance par la foi. parce que Dieu ne nous a pas laissés seulement dans le brouillard. Il ne nous a pas laissés complètement démunis dans le noir total. Il s'est révélé à nous. Et il nous a dit bien des choses. Il a révélé certaines choses que nous pouvons connaître et dont nous pouvons avoir la certitude. Et cela nous amène donc à notre dernier point, le refrain que nous allons parcourir maintenant. Alors, que dit ce refrain ? Quelle certitude affirme-t-il ? Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé par son amour et gardé par sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour. Que dit le refrain ? Que souligne-t-il ? Il souligne après toutes les choses que nous ne comprenons pas et toutes les incertitudes qui leur sont attachées, celles qui sont certaines. La certitude du salut. La certitude de l'amour de Dieu. La certitude de notre espérance. Oui, je sais qu'en lui j'ai la vie. Oui, je sais qu'il m'a sauvé dans son amour. Et oui, je sais que gardé par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. Si nous ne comprenons pas tout du salut de Dieu, si nous ne comprenons pas tout de l'Esprit de Dieu dans notre vie, de son œuvre, ce même Esprit de Dieu cependant rend témoignage à notre esprit, dit Paul. Que nous sommes enfants de Dieu. C'est pas nous qui le faisons, c'est Dieu qui le fait en nous. L'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes sauvés, que Dieu nous aime et que notre espérance est certaine. Comme le dit Paul à Timothée, et c'est donc le refrain de la version anglaise, nous savons en qui nous avons cru. Nous savons, nous avons la certitude au fond de nos cœurs. Nous savons en qui nous avons cru et nous savons que Dieu a la puissance de nous garder dans la foi jusqu'à la fin. Si nous ne comprenons pas tout de l'amour de Dieu, pas tout de sa grâce manifestée sans que nous ne méritions quoi que ce soit, par l'Esprit de Dieu en nous, nous savons que Dieu nous aime. C'est une certitude dans notre cœur. Nous savons qu'il nous a sauvés et nous savons qu'il va nous garder dans sa main. Nous avons l'assurance, comme le dit Paul aux Romains, que rien, pas même la mort, il dit bien des choses dans ce texte, pas même le diable, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Si nous ne comprenons pas tout de l'œuvre mystérieuse de l'Esprit-Saint dans notre cœur, par son action dans notre cœur, nous savons que Dieu a commencé une œuvre en nous qu'il rendra parfaite au jour de Jésus-Christ. Nous savons, et je cite maintenant quelques paroles d'un chant qui ne nous rajeunit plus trop, mais du groupe Pâturage, dans les années 70-80, ce groupe qui a aussi composé le chant Maranatha qu'on chante parfois, un chant qui m'a beaucoup accompagné dans mon adolescence, et voilà ce qu'il dit. Quelque chose s'est passé dans ma vie. Quelque chose a bouleversé ma vie, fort comme un ouragan. Simple comme une fleur au printemps, doux comme le sourire d'un enfant. Quelque chose s'est passé dans ma vie. Quelqu'un a éclairé la nuit où je vivais. Je ne le connaissais pas. J'ai entendu sa voix, je lui ai dit « me voici ». Et puis arrive le refrain qui dit « je sais que Jésus est venu » et un peu plus loin « je sais que Dieu est tout-puissant. Je sais. Oui, je sais que quelque chose s'est passé dans ma vie. Si nous sommes en Christ, nous le savons par la foi. car l'œuvre de l'Esprit-Saint est là en nous pour en rendre témoignage. Alors bien sûr, rien n'est encore parfait, on ne parle pas de cela. Le chantier est en cours, mais nous savons. Si nous ne comprenons pas tout de la souffrance dans notre vie, si nous ne comprenons pas tout de la souffrance dans la vie des autres, pas tout du mal en général dans le monde, par l'Esprit de Dieu en nous, nous savons, même si c'est un mystère, que Dieu fait concourir toutes choses pour le bonheur éternel de ses enfants, de ceux qu'il a appelés selon son dessein. Nous savons aussi qu'il faut, pour un temps, que nous soyons attristés par diverses épreuves, afin que l'épreuve de notre foi, plus précieuse que l'or périssable, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus paraîtra. Enfin, si nous ne comprenons pas tout de la gloire à venir et de notre espérance par l'Esprit de Dieu en nous, nous savons que ces choses sont vraies. Nous savons que notre espérance est comme une encre solide et ferme pour notre âme. Nous savons, et comme Abraham, nous attendons la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et nous savons, et nous attendons selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Chers amis, avons-nous besoin de tout comprendre pour croire en Dieu, pour croire au salut, pour croire à Jésus et à son retour, pour avoir de l'assurance? La réponse est non. Non, parce que ce que Dieu a révélé est suffisant pour notre foi. Non, parce que l'assurance que nous donne la foi est suffisante. Non, parce que le témoignage de l'Esprit-Saint en nous est suffisant. Oui, en effet, il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas. Il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas. Mais nous savons l'essentiel si nous sommes en Jésus. Nous savons qu'en lui, nous avons la vie. Nous savons qu'il nous a sauvés dans son amour. Nous savons que par sa main meurtrie, il nous garde jusqu'à son retour. Et nous savons qu'il va bientôt revenir. Pourquoi sommes-nous si sûrs? Parce que Dieu nous le dit dans sa parole. Il offre ses promesses à notre foi. Parce que Dieu nous a donné la foi. Et que la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors oui, par la foi, nous pouvons dire, je peux dire, je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour. Amen.